Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'histoire d'un grand vide, celui laissé par une mère absente. L'une parce qu'elle s'est choisie une autre vie, loin de ses enfants et de leur père. L'autre parce qu'elle est morte trop tôt, laissant une enfant de 10 ans orpheline. Deux réalisatrices s'attaquent à ce sujet intime et universel et dévoilent sous la forme documentaire leur parcours, leur stratégie pour y faire face. Turbulence est sorti hier sur la plateforme Arte TV, il est signé Anne Aguillon. Émilie Brisavoine nous livre, elle, au cinéma « Maman déchire » ou « La quête inlassable » d'une mère anticonformiste et elle-même secouée par la vie. Deux films qui interrogent notre capacité à nous remettre des traumatismes de l'enfance. Bienvenue à tous sur le Pont des Arts. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Anne Aguillon, vous avez réalisé de nombreux documentaires. Vous êtes allée au Nicaragua, en Antarctique, au Rwanda, dans la période post-génocide des Tutsis. Cette fois, dans Turbulence, ce sont vos propres sentiments depuis la perte précoce de votre mère que vous explorez. Émilie Brisavoine, après avoir parlé, vous, de votre sœur dans Pauline s'arrache, votre film Maman déchire, c'est, je le disais, une quête, hein. Vous cherchez à comprendre une mère qui vous a fait souffrir et qui, bien que vivante, elle, vous a aussi parfois cruellement manqué. Dans cette émission, on découvrira l'œuvre d'Esther Maklangou, c'est l'une des peintres les plus connues d'Afrique du Sud. Une rétrospective lui est consacrée à Johannesburg, où vous vous trouvez, Claire Bargelès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partie sur les traces d'Esther Maklangou.
Oui, à 89 ans, elle est l'une des gardiennes de la culture ndébélé. Et vous avez peut-être déjà vu son travail exposé dans des musées, puisque ses peintures aux motifs géométriques très colorés ont fait le tour du monde.
Et vous nous raconterez tout cela. Et puis en fin d'émission, on s'arrêtera à Yaoundé, à la librairie des peuples noirs dont vous êtes le gérant. Ambroise Combe, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous nous parlerez de celui qui a fondé cette librairie, l'écrivain Mongo Betty, à l'occasion de la réédition de Mongo Betty parle. C'est une conversation que vous avez eue avec lui.
C'est exactement quelques mois simplement avant sa mort.
Et oui, un entretien à bâton rompu hein, qui désormais fait office quasiment d'autobiographie de l'auteur ou de testament politique.
RFI. Sur le pont des arts.
Anne Aguillon, Émilie Brisavoine, beaucoup de points communs entre vos deux films, et notamment, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que ça joue beaucoup sur l'atmosphère dans laquelle ils nous plongent, la présence très douce des films de famille dont on voit quelques extraits, c'est très touchant. Je me suis posé la question de savoir comment vous les aviez l'une et l'autre découverts, dans quel format du Super 8 que vous avez numérisé, comment vous êtes allée à la quête de ces documents-là.
D'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Pour ma part, j'ai récupéré... En fait, mon père avait une caméra, 8 mm d'abord et après Super 8,
ouais.
Les deux. Et quand j'avais peut-être une douzaine d'années, j'ai commencé à les voir un petit peu. Et puis après, ils ont complètement disparu. Et vers 25 ans, je crois, 20-25 ans, mon père a décidé de les numériser.
C'est lui-même qui l'a fait.
Non, c'est pas lui, il l'a fait faire. Mais du coup, c'est un ami à moi. C'est des amis à moi qui l'ont fait à l'époque. Et tout à coup, les films étaient visibles.
Oui.
Et je les ai regardés beaucoup pendant des nuits entières. Je regardais ces films.
Oui, et vous le racontez d'ailleurs dans le documentaire. Ils vous ont servi de matière première en fait pour aller à la rencontre de cette mère aussi.
Oui, au départ, oui. Mais beaucoup plus tard, hein, parce que ça, plus 25 ans aujourd'hui.
Émilie Brisavoine, comment vous avez-vous remis la main sur ces documents qui sont nombreux et je le disais, extrêmement, extrêmement touchants, des petits moments de vie en famille ?
C'est les archives de mon grand-père. En fait, j'ai toujours vu mon grand-père quand j'étais petite avec un caméscope et il nous filmait tout le temps. Et après, il fallait qu'on regarde les vidéos cassettes qui branchaient sur la télé. Et surtout, il nous avait fait à chaque membre de la famille une petite cassette spécialement dédiée à chaque individu et qui, moi, me fascinait beaucoup parce que, en fait, il faisait ça, il faisait du tourné-monté dans son grenier. Il avait une télé et il mettait des. Alors, soit il filmait des extraits de Super 8, soit il filmait des VHS et ensuite il coupait, après il filmait des photos avec des commentaires et puis en même temps derrière il mettait de la musique, mais comme la musique était déjà passée, ça faisait des trous, enfin voilà, c'était quelque chose
c'est
de
pas
très,
très bien synchronisé quoi.
Oui, mais ça avait un charme fou. Et en fait, j'ai retrouvé ces cassettes et j'ai retrouvé aussi toutes ces archives que j'ai moi-même fait numériser et ça a constitué un énorme corpus de mon travail. Et j'ai aussi travaillé avec parce que à un moment je parle de l'enfance de ma mère et j'avais pas d'archives. Du coup, je suis allée dans. Il y a beaucoup d'associations régionales qui récupèrent les archives amateurs et qui font un travail comme ça d'archives qui est vraiment magnifique. Et ça, c'était avec l'association Cinéam et c'est des rushs d'Essonne. Et moi, je suis complètement fascinée par ces images amateurs parce que amateur dans le sens fait avec amour, quoi. On sent vraiment quelque chose qui est pas du tout professionnel et qui sont un peu les images d'Épinal de nos enfances et qui constituent. Enfin, on a tous à peu près les mêmes motifs à la maison. Hein. On a tous le sapin de Noël.
Et c'est vrai que ça donne à chaque fois qu'on les voit cette petite couleur sépia et ce parfum d'années qui sont bel et bien passées. Hein. Au siècle dernier, on vous y voit vous, on voit vos mères dans leur jeunesse. Vous diriez l'une et l'autre que le cinéma, le documentaire vous permet de vous reconnecter à elles, à ces femmes, à Naguion ?
En fait, oui, je pense qu'il y a un peu de ça, mais vous savez, ce film, je ne l'ai pas pensé au départ comme un film sur ma mère. Du tout. Et je ne sais pas si c'est
vraiment...
il n'est pas question que de ma mère.
Mais c'est un point de départ très important.
Alors, c'est un point de départ et en même temps, le point de départ, il s'est dessiné au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'était pas... Alors, j'ai monté... Les premières séquences que j'ai montées, c'est la séquence... Il y a une séquence avec mon père et puis une autre avec ma mère, donc avec ses images en 8 mm. Mais ce n'était pas encore central dans le film et notamment j'avais pas encore décidé que j'allais écrire exclusivement à ma mère. Et parce que le film est constitué de lettres que je pensais au départ adresser à tout un tas de gens, dont mon père qui venait de mourir, dont une petite fille du Rwanda qu'on voit dans le film à un moment, à qui je pensais m'adresser. Et puis, bon, tout ça est devenu trop compliqué. Et donc, j'ai resserré, je dirais, vers ma mère. Et pour ce qui est des archives, il y a le 8 mm et le Super 8 brillent, quoi. C'est une brillance extraordinaire. Je veux dire, en plus, c'est filmé dans des moments de loisirs, des moments de vacances.
Des moments creux de la vie, ouais.
Voilà.
Des moments tranquilles
donc,
de la vie.
C'est formidable.
Émilie Brézavoine, vous, ce documentaire-là, vous a réellement reconnecté à votre mère dans la mesure où vous l'avez embarquée dans l'aventure. On la voit, elle s'explique, vous l'interpellez, vous la secouez, vous lui demandez des comptes tout au long de ce documentaire.
Bah, c'est vrai que pour moi, l'enjeu du film, c'était de pouvoir explorer cette relation qui est si complexe avec elle et qu'on puisse ensemble évoquer le passé. Et parce que c'est arrivé au moment où moi-même je suis devenue mère et j'ai ressenti des sentiments contradictoires. À la fois, j'étais hyper heureuse parce que ma mère était hyper présente, hyper investie avec mon enfant. Et en même temps, je ressentais une forme de colère qui me faisait un peu culpabiliser et j'arrivais pas trop à saisir. Et parallèlement à ça, j'ai retrouvé mes journaux intimes de petite fille. Où là, tout d'un coup, j'ai pu... ça a été une espèce de Madeleine de Proust un peu amère qui m'a reconnectée justement à ce passé que j'ai pu revivre. J'ai pu revivre les émotions de cette petite fille, mais dans mon corps et ma conscience d'adulte. Ouais. Donc, ça a été... je me suis dit que ça, c'est un point central qui était fait de nœuds qui m'a permis de démarrer ce projet de film où, effectivement, j'ai embarqué ma mère. Et pour moi, c'était aussi l'idée de lui proposer un projet fort dans lequel on pourrait passer du temps ensemble parce qu'on a une histoire complexe, j'ai pas grandi avec elle. Et tout le mouvement du film, c'est justement d'aller vers elle, quoi, en fait.
Et on va parler effectivement de ce personnage de votre mère qui est assez truculent, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ce n'est pas un peu étrange de mettre ses propres sentiments, sa propre expérience, son propre vécu au cœur même de son œuvre, Anna Guion ?
Alors, c'est très compliqué. Enfin, pour moi, ça a été très compliqué. Mais au départ, en fait, le point de départ de ce film, c'était vraiment je sortais du Rwanda, de 12 ans de travail au Rwanda qui m'avait épuisée. Et vraiment, à un moment, mon corps, enfin, je veux dire, j'arrivais plus à avancer. Et puis, littéralement, c'est-à-dire, je me souviens un jour, on venait de finir les sous-titres et j'étais dans le couloir de la correspondance à la station Concorde avec deux collaboratrices qui me soutenaient littéralement, je marchais plus. Et puis, quelques mois plus tard, je me suis cassé le pied. Et là, véritablement, j'ai continué à marcher sur mon pied cassé pendant quelques mois, pendant 4-5 mois. Je ne savais pas qu'il était cassé et c'est quand j'ai su qu'il était cassé que je me suis dit « bon, on arrête ». Je suis devenue...
Il y a cette fracture, il faut en prendre conscience, il faut la comprendre.
Il faut la comprendre et donc c'est le point de départ de ce film et je suis devenue obsessionnelle de la marche et j'ai décidé de faire un film sur la marche. Et la marche comme outil de guérison presque, hein, je veux dire. Et donc c'est comme ça que ce film a commencé. Et puis parallèlement, je travaillais sur un autre film sur la mousson. J'ai eu une bourse pour aller en Inde. Je suis partie en Inde et à un moment, j'étais en train de marcher dans le nord-est de l'Inde, dans des paysages extraordinaires, gigantesques, qui me rappelaient l'Antarctique, mais comme un antipode de l'Antarctique, comme le contraire, quoi, de l'Antarctique, une espèce d'endroit grouillant de vie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le même film. Et voilà.
Et vous avez réuni ces paysages-là dans ce film-là. Et c'est vrai qu'on les voit et que ça participe à la magie. Et au côté onirique, j'allais dire, de vos deux films, Anna Guion, effectivement, par ses paysages superbes. Et chez vous, Émilie Brisavoine, par ses séquences animées.
Dans le cosmos.
Dans le cosmos, exactement.
Oui, c'est ça. Bah, c'était important pour moi de trouver un langage, une écriture cinématographique qui permette de rendre compte du flux de la psyché. En fait, j'avais envie de construire ce film comme une odyssée intime, comme un voyage initiatique à l'intérieur de la psyché. Et donc, comme moi, j'adore travailler avec des matériaux hétérogènes, donc vous avez parlé des films amateurs, mais je capte beaucoup de choses aussi sur Internet. Et puis, j'avais envie...
On voit même vos dessins d'enfants. On remonte jusqu'à vos dessins d'enfants.
Voilà, c'est ça. C'est que l'idée, c'est que avant, moi, j'ai pas du tout... Je suis autodidacte, j'ai pas une formation de cinéaste, donc j'ai un rapport très plastique à la matière et j'aime bien justement arriver à trouver de la matière et de créer des couches aussi. Je fais beaucoup de filtres et j'essaye de trouver une matière très vibrante en fait, qui soit à l'image de la psyché. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de discuter ensemble, on est ici, puis en même temps, peut-être que vous êtes en train de penser à des choses de votre passé ou peut-être que vous pensez à je sais pas, qu'il faut emmener la voiture chez le garagiste. Enfin voilà, en fait, la psyché, c'est un espèce d'organe.
De continent.
Kaléidoscopique. Voilà, c'est ça. Et j'avais vraiment envie d'explorer ça.
Moi, je pensais surtout à Bessie Griffin, qu'on va écouter tout de suite.
Like a motherless child. So like a moon. like a motherless child, alone away from
Sometimes I feel like a motherless child. Bessie Griffin qui vous accompagne, Anne Aguillon, sur la bande-son de votre film Turbulence. On se demande en le regardant, et vous l'évoquez d'ailleurs à un moment dans le commentaire, dans la voix off, si tous vos reportages, toutes vos magnifiques aventures de par le monde n'ont pas été finalement pendant de longues années une façon de laisser parler la douleur des autres pour ne pas voir la vôtre propre.
Il y a une grande stratégie
d'évitement,
on va dire.
On va pas faire de psychologie de bazar, mais il y a de ça.
Oui, il y a eu une grande stratégie d'évitement dans toute ma vie, d'évitement, d'enfermement. Enfin bon, c'est les thèmes qui reviennent un peu dans le film. Mais ça a été très compliqué pour moi de me mettre en scène dans ce film parce que au départ, si je relis, et j'ai relu il n'y a pas très longtemps la première intention que j'avais écrit 3 paragraphes, et je disais, ça va être un film sur l'exploration des traumatismes, comment le personnel, le familial, l'historique, le collectif s'interagissent et se font écho, mais je vais jouer le rôle d'une
femme... Parce qu'il y a aussi l'historique, et on ne l'a pas évoqué, hein, mais la déportation du côté de votre papa, du coup.
Ouais. Absolument. Mon père a vécu toute la Shoah en France. Il n'a pas été déporté, ouais. Mais il a vécu en France. Il a essayé de traverser les Pyrénées. Il n'a pas réussi parce qu'il avait un problème de handicap physique. Mais tout ça, je veux dire, l'idée, c'était de... Et puis, c'est ça qui m'a amenée au Rwanda. Hein. Je veux dire, je suis désolée, je saute un peu du coq à l'âne. Mais je pense que je suis allée au Rwanda pour explorer la douleur de la génération de mes parents. De mon père en particulier. Et d'ailleurs, quand je suis revenue du Rwanda avec mon premier film, que j'ai projeté mon premier film, mon père a pleuré. Et ça, c'était un moment étonnant, je veux dire, de voir ça.
Ouais, mais finalement, entre la douleur de vos ancêtres et celle de vos objets de cinéma, la vôtre n'avait pas de place.
Absolument. La mienne était mise de côté. Et donc, l'idée, c'était de faire un film où je mettais en scène un personnage qui était basé sur moi et j'allais jouer son rôle. Vous voyez un petit peu le décalage. Et pendant des années, quand j'ai écrit, j'écrivais « elle ». Je n'écrivais pas « je », j'écrivais « elle ».
Vous avez dissocié, comme on dit.
J'ai dissocié.
Émilie Brisavoine, vous avez pensé à un moment donné, vous, faire une fiction de cette histoire compliquée avec votre mère ou pas du tout? Ou c'était pour vous, clairement, depuis le départ, un travail documentaire?
C'est-à-dire qu'après mon premier film, Pauline Sarrache, qui est sorti en 2015, j'ai travaillé pendant 4-5 ans sur l'écriture d'une fiction qui tournait autour d'une relation mère-fille avec l'idée qu'il fallait travailler, qu'il fallait que... pour que le personnage principal puisse avancer et puisse se réconcilier avec sa mère. Et puis, en fait, au fil des commissions, des réécritures et des re-réécritures, enfin, c'est tellement long de financer de la fiction, ouais. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi
la
ne pas reprendre...
La matière, je l'ai autour de moi.
Oui, c'est ça. Pourquoi ne pas aller directement au but et pourquoi ne pas reprendre ma caméra et cette démarche documentaire comme ça et aller directement à la source, c'est-à-dire au plus grand mystère de mon univers qui est depuis toujours ma mère, quoi.
Que vous avez donc embarqué dans cette aventure, je le disais tout à l'heure. Il y a des moments dans le film où elle dit « j'en ai marre, hein, je vais arrêter ». Voilà. On sent que c'est quand même... compliquée, mais elle marche dans la combine et elle se dévoile. Hein, c'est un sacré personnage, on n'en a pas encore parlé, mais elle jure, elle crie, elle s'énerve, elle est à vif en permanence. À certains moments, elle apparaît même aussi extrêmement fragile, et c'est ce qui est intéressant, hein, comme ce moment où vous devez lui tenir la main parce qu'elle doit aller se faire soigner les dents, elle a peur, il y a une espèce de d'inversion des fonctions, si on peut dire, et vous la rassurez. J'allais dire qu'elle se livre totalement, sans phare et sans limite, cette maman, dans ce film, cette Maud.
Pour moi, ma mère, c'est un personnage de cinéma depuis toujours, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours fascinée, elle a à la fois cette espèce d'anticonformisme, cette truculence, cette audace, cet humour aussi, et puis en même temps, il y a cette violence qui, moi, me terrorisait petite et même adulte, et elle est pleine, elle a un passé, une histoire extrêmement complexe et dure, et elle a à la fois cette grande force, cette fragilité. Enfin, pour moi, elle a vraiment tout ce qu'on peut imaginer ce qui fait tous les plus grands personnages de cinéma, mais c'est dans la vie, quoi. Et en plus, c'est ma mère. Donc oui, c'était important pour moi de travailler le personnage de ma mère, mais aussi celui de mon frère et du mien, en montrant ce pourquoi le cinéma est intéressant, c'est montrer toutes les ombres et les lumières de l'humanité et de pouvoir montrer ça sur chacun des personnages. C'est-à-dire que ma mère, il y a cette violence et cette fragilité. Et chez mon frère, il y a aussi cette hypocondrie, cette anxiété, et en même temps le fait qu'il ait cette espèce de fragilité où il se pose des questions sur sa paternité. Et puis moi, il y a cette espèce de lâcheté, cette peur que j'ai de ma mère. C'est-à-dire montrer des choses qui font peur ou qui font honte et qu'on cache normalement par bienséance dans la vie. Moi, je trouve que le cinéma ou même la littérature, l'art, c'est l'endroit où on peut montrer justement toute la complexité de l'humanité, quoi.
Oui. Vous ouvrez le rideau totalement, et surtout les personnages. On va écouter un extrait de la bande-son de Maman Déchire, un peu en décalage avec ce que vous venez de nous raconter, mais c'est quand même très beau.
Maman, c'est toi la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde.
Voilà, Luis Mariano, Maman, la plus belle du monde. Une partie de la bande-son de votre documentaire, Émilie Brisavoine. Vous aimez cultiver ce décalage entre le propos et la musique qui l'illustre. Anna Guion, Émilie Brisavoine avec nous sur le Pont des Arts pour la sortie de leur film Turbulence et Maman Déchire. Ce qu'ils ont en commun aussi, ces deux films, c'est que vous vous interrogez l'une et l'autre sur ce qu'ont été les fractures intérieures de ses mères. La vôtre, Anna Guion, américaine, exilée, vous employez ce mot à un moment donné, exilée par le mariage un temps en Bretagne, et vous vous posez la question de savoir si c'est cet exil qui l'a menée à la mort.
Oui. Oui. Oui, tout
simplement. Ça reste sans réponse.
Oui, c'est sans réponse, ça, j'aurais jamais la réponse, ni mon père ni ma mère ne sont là pour y répondre. Je pense que c'est vraiment, si vous voulez, ma mère a été vraiment un prétexte pour ce film. Et c'est pas un film, le Turbulence, c'est pas un film de famille, c'est pas un film ni sur mon père, ni sur ma mère, ni sur mon frère qu'on aperçoit, enfin dont on sait à peu près à travers une demi-phrase qu'il existe. Ouais. C'est vraiment un film c'est vraiment un film où j'ai voulu interroger. C'est-à-dire, je suis revenue de ce travail au Rwanda et je me suis dit qu'est-ce qui m'a amené là-bas? C'est vraiment ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Et je me suis dit, il faut que je m'interroge maintenant, après tout ce travail, sur mon histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux apporter à travers mon histoire. Voilà. Mais c'est marrant parce que je regardais votre film, Émilie, hier, et je me disais, ça a un côté totalement mystérieux pour moi, là, pour le coup, parce que je me disais, en fait, quand j'étais jeune, j'avais des amis qui avaient des relations conflictuelles avec leur mère, et je me disais, ah, super, c'est un problème que je n'ai pas, mais j'en ai un autre que j'aimerais ne pas avoir, en fait.
Hein, qui est
l'absence de la mère.
Ouais.
Voilà, je pensais à ça.
C'est intéressant parce que vous disiez, Émilie Brisavoine, avoir sondé aussi à travers ce film et cette recherche le passé de votre mère. Et on peut dire, je pense sans trahir l'histoire ni la surprise, qu'elle hérite elle-même d'une énorme souffrance.
Bien sûr, tout l'enjeu du film, finalement, c'est de montrer en quoi on porte des traumas qui sont pas à nous, quoi, et dont on a hérité. Et c'est ce qu'on voit aussi dans votre film, Anne. C'est-à-dire que tant que les traumas n'ont pas été regardés, et je pense que le cinéma, c'est notre manière à nous d'observer, de regarder ça, finalement, il se répercute sur la génération suivante. Et oui, l'enfance de ma mère est aussi le produit de l'histoire de sa mère et de ma grand-mère.
Histoire familiale.
Bien sûr, avec sa mère qui était une fille mère et qui s'est retrouvée enceinte d'un homme marié et qui, dans les années 60, on imagine à quel point ça devait être compliqué d'aimer cette petite fille qui, elle-même, s'est retrouvée élevée par une mère froide, quoi, et qui après elle-même a des enfants. Enfin, voilà, c'est aussi l'idée de montrer qu'on est à la fois le produit, certes, de notre histoire à nous, à l'échelle de notre vie, mais on est aussi le produit d'une culture, d'une société, là, en l'occurrence, avec des valeurs patriarcales. Et on est aussi le produit de tout ce que ces femmes ont enduré, finalement. Et donc, ça décentre aussi le...
On en est le produit, mais vous, pour le coup, vous cassez le moule. C'est-à-dire que ce cycle qui fait que la violence se répercute, la violence et la souffrance se répercutent d'une génération à l'autre, vous, ça s'arrête avec vous, avec votre génération et avec votre propre fils, que l'on voit aussi à l'image.
Oui, l'enjeu pour le... C'est la question qu'on se pose avec mon frère, c'est comment on fait pour stopper ça, et j'ai pas vraiment de... En tant que cinéaste, on pose des questions, j'ai pas de réponse toute faite, mais je pense qu'en mettant de la conscience sur les choses, en les regardant, et c'est pour ça que nous, on utilise l'outil caméra et le cinéma, parce que ça permet aussi de créer... Enfin, moi, j'ai pris le prétexte de mon histoire personnelle pour raconter quelque chose de plus... pour construire un récit qui touche à l'universel, parce que je pense que les récits sont hyper importants. Déjà, individuellement, c'est ce que vous disiez, Anne, l'idée qu'il faut que chacun puisse revenir sur son histoire pour recoller les morceaux, et aussi pour pouvoir s'inscrire... parce que les récits nous permettent de se comprendre nous, mais de comprendre les autres, de comprendre la nature humaine, le monde dans lequel on vit, et je trouve que c'est important.
Anyway. I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please don't pull those faces when I'm out working my ass off all day. It's just one bottle of wine or two, but hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep, then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say
la chanteuse et compositrice britannique Lola Young avec ce titre Messi pour nous conduire en Afrique du Sud à la découverte d'Esther Maklangou. C'est une artiste qui a déjà une longue carrière derrière elle, 89 ans. Esther Maklangou est l'une des peintres les plus connues d'Afrique du Sud pour ses tableaux aux motifs géométriques très colorés, basés sur l'art de la communauté Ndébélé qui les peignait sur les murs des maisons. La France avait découvert Esther Maklangou lors de l'exposition Les Magiciens de la Terre au Centre Pompidou, c'était en 1989. Et depuis, elle a conquis le monde. Claire Bargelès, vous êtes donc notre correspondante à Johannesburg. Il y a donc une rétrospective actuellement au musée de l'université de Wits qui permet de retracer tout le travail d'Esther Maklangou.
Oui, et après la ville du Cap, cette rétrospective est désormais installée ici jusqu'au 17 avril, avant de partir plus tard pour une tournée mondiale. Une exposition pour avoir un regard d'ensemble sur l'œuvre d'Esther Maklangou et le côté novateur qu'elle a apporté à l'art ndébélé, passant des couleurs naturelles à l'acrylique, des murs aux objets et à la toile. Nous avons pu visiter cette rétrospective en compagnie de la commissaire d'exposition Nontobeko Tombela.
So what we see as we enter is
ce qu'on voit en premier en entrant, c'est l'ensemble des œuvres qu'elle a réalisées sur des supports en 3D. Bien sûr, ce que tout le monde connaît et est excité de voir, c'est cette BMW, produite en 1991. L'entreprise avait eu la sagacité de se tourner vers une artiste africaine. Et pendant longtemps, Esther est restée la seule peintre du continent et femme noire à avoir participé à cette série iconique de voitures artistiques. Mais même avant cela, elle était déjà une artiste établie. Elle dit souvent « Beaucoup de gens pensent que je suis devenue une artiste lorsque j'ai commencé à être invitée par les pays occidentaux pour participer à des projets et des expositions. » Mais on essaye ici de montrer que c'est plus intéressant et compliqué que cela. Elle était déjà reconnue au sein de sa communauté avant d'être révélée à l'international. Elle raconte toujours comment, lorsqu'elle essayait de peindre quand elle était enfant, à 10 ans, on lui rétorquait qu'elle n'était pas assez bonne. Mais elle se projetait déjà dans le futur, et c'est vraiment radical pour elle, dans l'Afrique du Sud des années 1940, de se considérer comme une bonne peintre. Quand on regarde les symboles qu'elle utilise, on peut voir des éléments traditionnels, mais on réalise qu'elle les transforme en profondeur, de façon complexe. La plupart des motifs lui deviennent propres. Vous voyez là, ce triangle est un motif standard. Mais avec Esther, il a des carrés imbriqués et un autre triangle au-dessus, ce qui permet de transformer ce qui aurait été sinon assez banal. Avoir toutes ces œuvres de retour à la maison, c'est très important. Je pense que beaucoup d'artistes africains meurent avant d'avoir vu leur travail être rassemblé et pouvoir être célébrés pour ce qu'ils ont créé.
Et Et donc tout cet art est basé sur la culture portée par la communauté Ndébélé, dont le style repose aussi sur le travail autour de bijoux en perles et des habits et couvertures aux couleurs très vives. Les peintures dont on retrouve les premières traces sur les murs des maisons dans les années 1940 ont pu être perçues comme un acte de résistance sous l'apartheid, la stratégie d'affirmation d'une identité pour exister et faire valoir ses traditions. Mais paradoxalement, le gouvernement ségrégationniste de l'époque a aussi voulu s'en servir comme la preuve de l'existence de races différentes qui auraient toutes des spécificités propres et comme d'une attraction touristique pour promouvoir sa politique de bantoustan. C'était ces sortes de régions ethniques créées pour servir le développement séparé des populations.
Esther Maclongou est devenue, Claire, une figure mondiale de cet art, mais c'est dans le village où elle s'est installée à l'âge adulte qu'elle réside toujours aujourd'hui.
Oui, dans le village rural de Mtambotini, à une centaine de kilomètres de la ferme où elle est née. Il faut conduire un peu plus de 2 heures depuis Johannesburg pour atteindre sa propriété, où le soleil se fait assez lourd après plusieurs jours de pluie. Et c'est aussi près de cette localité qu'a vécu une autre figure de la peinture Ndébélé, Francina Ndimande, aujourd'hui décédée, mais qui a entièrement redécoré l'église du village. Pour sa part, Esther Maclongou est désormais trop âgée et fatiguée pour répondre aux interviews, mais c'est son petit-fils, Colani, qui nous fait visiter la demeure. Autour de nous, sur le fond blanc des murs, du vert, du rose, du jaune, partout les couleurs dansent.
Hello.
How are you?
Good. Hey, Colani?
Yeah, Colani.
Hi, Claire.
Nice to meet you.
Ça a commencé ici, avec cette maison. Car chez nous, si une femme veut se marier, il faut qu'elle peigne sa maison pour ne pas qu'on se moque d'elle et pour que sa belle-mère l'apprécie. C'est pour ça qu'il faut savoir faire umgualo, la peinture comme ça. Vous voyez, elle a peint tous les murs. Et ce style particulier, là en bas, on appelle ça irupo. À l'origine, on faisait cette partie avec de la bouse de vache mélangée à de la terre, puis on décorait avec les doigts.
Bravo, on voulait le mal.
Docteur Esther Maclongou est tellement créative. Moi, je suis vraiment impressionné. Désormais, elle a besoin qu'une vraie école soit construite, car elle reçoit des élèves ici de façon informelle à l'extérieur. Et c'est un problème quand il pleut ou quand le soleil est trop fort. Elle dit toujours qu'elle ne veut pas voir sa culture mourir. Et c'est pour ça qu'elle veut une école, pour que les plus jeunes continuent à venir afin d'apprendre à peindre.
Devant l'enceinte extérieure, un homme s'applique un pot de peinture acrylique bleu marine sur les genoux. Il repeint les motifs qui commencent à s'effacer des murs. Les connaissances artistiques Ndébélé se transmettent traditionnellement de femme en femme, mais peut-être parce qu'elle a eu 3 fils, Esther enseigne à tous et Tsepo a appris auprès d'elle.
I'm drawing, using chicken feather.
Je dessine ici en utilisant une plume de poulet. C'est elle qui a développé cette technique. Ça donne des lignes fines et ça permet de tracer droit. Pas besoin de règles. On a appris comme ça, car elle n'en utilisait pas. C'est toute une question d'expérience. Son art restera après elle. On le gardera en nous. Toutes les personnes qui ont appris ces techniques, comme elle les avait elle-même apprises auprès de sa famille.
Claire, sur la route du retour, on fait un petit crochet par la ville de Pretoria où une jeune artiste suit les pas de la vieille dame.
Oui, Doudou Zilé, 37 ans, et elle aussi de culture Ndébélé, est impressionnée par la carrière d'Esther Maclongou et elle veut, comme d'autres, continuer à perpétuer son art. Elle a installé son studio et ses créations dans son garage.
J'ai créé différents accessoires. Là, on a des boucles d'oreilles, ici des t-shirts, des chapeaux, des baskets. Esther Maclongou m'inspire énormément et elle vieillit désormais, donc nous sommes la jeune génération qui doit continuer à créer ce style Ndébélé. Je me dis toujours que si une vieille dame comme elle a su aller si loin dans le monde de l'art et est parvenue à se faire connaître au niveau international, alors nous aussi, les plus jeunes, nous pouvons continuer à travailler à partir de tout ce talent qu'elle laisse derrière elle.
Et si vous vous demandez pourquoi certains l'appellent à l'artiste docteur, c'est parce que Esther McLangou a reçu plusieurs diplômes, dont un doctorat honorifique qui reconnaît la façon dont son art et ses formes géométriques peuvent expliquer certaines formules mathématiques.
Claire Bargelès avec nous en direct de Johannesburg. Cette rétrospective consacrée à Esther McLangou est donc visible jusqu'au 17 avril avant une tournée mondiale. Merci Claire, à très bientôt.
Sur le pont des Arts.
Anna Guion, peut-être un tout petit mot de réaction à ce que l'on vient d'entendre, le parcours de cette artiste de bientôt 90 ans qu'on a tenté de décourager enfant de faire de la peinture, qui s'est accrochée et qui rayonne aujourd'hui partout dans le monde.
C'est formidable, formidable. Et puis, on a une chance folle, nous les artistes, de pouvoir travailler aussi longtemps, quoi. C'est génial. Moi, j'adore ça. Et puis, j'ai jamais été en Afrique du Sud, mais j'ai très envie, un jour ou l'autre.
En tout cas, vous avez peut-être vu ses œuvres, effectivement, quand elles sont passées par le Centre Pompidou à Paris. C'est mardi, sur le Pont des Arts, voici notre rendez-vous avec les librairies du monde. Et voilà un moment que l'on voulait s'arrêter. À Yaoundé, c'est chose faite aujourd'hui. La librairie dont on parle est un cas à part, puisqu'elle a été créée par un grand écrivain, Mongo Betty, disparu en 2001. Ambroise Combe, vous êtes en ligne avec nous. Vous avez enseigné longtemps la littérature. Aujourd'hui, c'est vous qui gérez cette librairie des peuples noirs. Racontez-nous d'abord l'histoire de cette librairie. Elle a fêté ses 30 ans, hein, c'est ça ?
Oui, tout ça, tout à fait. La librairie des peuples noirs a fêté ses 30 ans en 2024. Elle fut créée en 1994 par Mongo Betty, qui était retourné au Cameroun au lendemain de sa retraite. Et il s'était d'abord occupé dans sa famille, à Kometan, du côté de Mbalmayo, des activités agro-pastorales, parce qu'il croyait que cela lui permettrait d'améliorer les conditions de vie de sa famille. Mais après un temps, après un certain nombre de malentendus entre lui et sa famille, il s'est dit « il vaut mieux que je me consacre à ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire le métier du livre ».
Les métiers du livre.
Vous savez, il est écrivain, il avait aussi édité la revue « Peuples noirs, peuples africains » à Paris pendant une dizaine d'années.
Ouais.
Et donc, il s'installe à Yaoundé et il crée la librairie des peuples noirs,
ouais,
qui lui permettait vraiment de s'occuper d'un métier et d'un objet qu'il connaissait bien.
Et de sa passion. Voilà. Ambroise Combe, vous évoquiez Paris. Votre rencontre avec Mongo Betty, justement, elle a lieu à Paris au moment où vous finissez vos études. Quels étaient vos rapports avec lui et comment êtes-vous devenu en quelque sorte son successeur dans cette librairie ?
Bon, en tout cas, lorsque je le rencontre à Paris, je ne l'avais jamais vu. Je ne le connaissais que de réputation.
Ouais.
Et lorsque je passe par Paris à la fin de mes études à la Sorbonne, il était en train d'éditer « Peuples noirs, peuples africains » à Paris. Et en ce moment-là, je demande à le rencontrer parce qu'il s'agissait d'une icône des luttes pour la libération des peuples noirs d'Afrique et des afro-descendants, comme on dit aujourd'hui.
Mmh.
Et donc, de retour au Cameroun, Célestin Monga et moi prenons l'initiative d'inviter Mongo Betty à revenir au pays au terme de 32 ans d'exil.
Mmh.
Et c'est presque une dizaine d'années après sa disparition que Odile Topner, son épouse, Odile Bihidi, me demande, parce qu'à l'époque, elle vit en France, elle n'avait jamais vécu en Afrique,
ouais,
elle me demande si je pouvais, elle me sollicite pour...
Pour reprendre le flambeau, oui.
C'est ça, pour reprendre le flambeau à part de Mongo Betty, parce qu'on se connaissait bien.
Évidemment, voilà. Mongo Betty a été un écrivain engagé, hein, que l'on pense à Ville cruelle, paru en 54, dans lequel il dénonce la corruption et la violence dans la société coloniale camerounaise, ou encore plus tard à Main basse sur le Cameroun. Le livre dont vous allez nous parler, Ambroise Combe, ce sont des entretiens que vous avez menés avec lui. De quoi est-il question dans Mongo Betty parle ?
Donc, il était question que je demande à Mongobetti d'écrire son autobiographie. Il me disait toujours, mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas consacrer du temps à parler de moi.
Ouais.
C'est alors que je lui dis, bon, est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu peux me donner une interview? Et c'est en ce moment-là que l'auteur de Main Basse sur le Cameroun et moi, on se met à échanger. Donc, qu'il s'agisse du système éducatif, économique et politique, Mongobetti nous livre ici la substantifique morale de ses combats contre la France-Afrique, contre les dictatures postcoloniales. En somme, des stratégies de lutte contre l'oppression et pour la liberté, qu'il s'agisse de liberté individuelle ou institutionnelle. Dans Mongobetti parle, beaucoup de jeunes gens qui m'ont parlé à moi sont extrêmement fascinés par ce qu'ils y trouvent.
Oui, par l'actualité, en fait. Par l'actualité de ce propos de l'époque.
Exactement. Pas nécessairement, ils n'y trouvent pas nécessairement des recettes pour vivre, mais ils rencontrent un éducateur qui déconstruit le mythe des traditions africaines, qui serait allergique au modernisme. Mongobetti dénonce aussi, ce qui est très à la mode en ce moment, le cynisme français qui organise le pillage de l'Afrique à travers ses multinationales. Je ne les citerai pas, mais je crois que tout le monde les connaît. Sous la plume de Mongobetti, on apprécie aussi comment les richesses naturelles peuvent devenir malédiction, comme on l'observe en République démocratique du Congo aujourd'hui.
Oui, donc c'est effectivement d'une brûlante actualité. Ambroise Combes, je vais être malheureusement obligée de vous interrompre parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Cet ouvrage, Mongobetti parle, a été réédité à plusieurs reprises, c'est ça ?
Oui, ça a été édité en Allemagne et ça a été réédité en France par Omnisphère en 2006.
Oui.
Et ça vient d'être réédité par la maison Peuple, les éditions des Peuples Noirs.
Donc, dans la collection Essai. Et c'est donc évidemment pour ça qu'on en parlait aussi aujourd'hui. C'est ma vie qui est couchée dans ces pages, vous a dit Mongobetti, vous le racontez dans le prologue de ce livre. Merci professeur Combes d'avoir pris le temps de nous répondre sur RFI aujourd'hui. Et à très bientôt.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
À très bientôt. Pour d'autres découvertes, et vous qui nous écoutez à Yaoundé, n'hésitez pas à aller faire un tour à la librairie des Peuples Noirs, vous y serez bien accueillis. Émilie Brisavoine, Anna Guion, on n'a plus le temps de parler des papas, c'est un regret. Je voulais qu'on évoque ces figures paternelles qui sont également présentes dans vos deux films. Merci en tout cas d'être passé par nos studios. Turbulence à voir sur la plateforme de arte.tv et Maman Déchire au cinéma. Ce n'est pas toujours gai, mais c'est d'une justesse et d'une émotion incroyable. Demain, sur le Pont des Arts, on parlera des musées, de la surfréquentation qui conduit notamment le Louvre à de gros travaux de rénovation. Comment accueillir correctement 9 millions de visiteurs par an? Difficile équation. On en parlera avec nos invités. Damien Roucou était à la programmation, Pierre Plantier à la réalisation. Merci à eux. Dans 10 minutes, Radio Foot, Annie Gasnier. Et d'ici là, c'est le journal en français facile. À demain.
Merci.
Votre rendez-vous culturel sur le Pont des Arts, à retrouver du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI et en podcast sur l'application Pure Radio.